Bienvenue dans Courant Libre, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de mettre un peu plus de liberté dans leur vie. Que ce soit avec le voyage ou tout simplement comme style de vie, je vous embarque avec moi pour découvrir des personnalités intéressantes, attachantes, mais surtout inspirantes. Et pour ce 9e épisode, je vous présente une famille pas tout à fait comme les autres, à savoir les 5 baroudeurs. Il s'agit de Patrice, Virginie et leurs 3 enfants qui voyagent depuis plus de 9 mois dans leur 4x4 aménagé. Nous parlerons de la préparation de ce road trip hors des sentiers battus puisqu'ils n'empruntent que rarement les routes et cela les a amenés jusqu'en Inde où ils attendent patiemment la fin du confinement dans un petit village. Nous verrons comment se passe la vie de famille à 5 dans un 4x4, comment les enfants gèrent leur intimité ainsi que leur éducation scolaire, mais également la formidable initiative de Virginie qui a créé une association afin de remettre du matériel médical dans des endroits reculés. Bonne écoute sur le podcast de Courant Libre. Bonjour Virginie.
Bonjour Bastien.
Comment allez-vous? Comment ça se passe?
Eh bien, ça se passe très bien. On est dans un tout petit village au nord de l'Inde. On a été accueillis par de gentils villageois et on est sur la place d'un temple indien. Et tout le monde prend soin de nous ici.
Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre famille pour ceux qui ne vous connaissent pas?
Alors, nous sommes une famille composée de 5 personnes. Moi, mon mari et 3 enfants. Ma plus grande fille a 18 ans. Ensuite, c'est Ophélie, donc Lola a 13 ans. Et Tom, le petit dernier, a 9 ans. Et on a aussi un chien avec nous. Et on voyage depuis 9 mois maintenant. On est parti de France en juillet 2019. Le 17 juillet exactement.
D'accord. Et comment ça s'est passé, la préparation de ce voyage? Comment a commencé ce besoin d'aventure?
Alors, ça fait déjà plus de 13 ans qu'on voyage en 4x4 avec une tente de toit en mode camping, hors des routes, uniquement sur des pistes. On a rencontré des gens qui faisaient des roadbooks, qui sont des voisins à nous. Et on a commencé comme ça, vu qu'on habite à côté de l'Espagne. À chaque vacances scolaires, on allait découvrir l'Espagne par les sentiers battus, par les pistes, et en dormant uniquement dans des endroits désertiques où il n'y a personne et en découvrant des superbes paysages. Et ça plaît à toute la famille, ce mode de voyage. Ensuite, au bout de 13 ans, on avait quand même pas mal ratissé autour de chez nous, parce qu'on avait fait toute l'Espagne, on avait fait le Portugal, le Maroc, la Tunisie, la Corse, la Sardaigne, Slovénie, Serbie, Bosnie, Monténégro, la Grèce, et on avait qu'un mois de vacances au maximum, et donc on savait plus trop comment faire, et mon rêve à moi était de partir sur une année. Mon mari n'était pas prêt à cela, parce qu'il fallait louer la maison, pour lui c'était quand même pas évident à faire, quitter le travail et prêter sa maison en location, et mes enfants au début ne voulaient pas quitter leur copain. C'était comme ça, je l'acceptais, donc je voyageais en lisant des livres ou des choses comme ça. Et puis un jour, tout le monde a été prêt et il nous a bien fallu 2 ans de préparation. D'abord, on a acheté un véhicule sans électronique, parce que pour partir à l'autre bout du monde, moins il y a d'électronique, mieux c'est. Mon mari est mécano, donc il a acheté un véhicule qu'il a entièrement refait, uniquement pour ce grand voyage. Et on avait déjà une tente de toit, on en a acheté une autre pour les enfants. Il a fabriqué aussi une remorque, parce qu'en France, mon travail est délégué pharmaceutique. Je travaille pour un gros laboratoire, ce qui m'a permis, grâce à mes clients pharmaciens, de récupérer beaucoup de produits médicaux que l'on distribue tout au long de notre parcours dans différents pays ou dans des hôpitaux à faible moyen, ou chez des gens pauvres, des dispensaires, et aussi à des écoles. Donc c'est un voyage familial et humanitaire. Et
ben c'est super. Du coup, vous avez répondu à déjà des questions que j'allais vous poser un peu plus tard. Vous avez bien résumé la situation. mais déjà, j'ai une question. Donc vous, vous êtes dans le domaine pharmaceutique à la base, mais votre mari, à la base, il fait quoi en fait? C'est quoi son métier avant de partir à l'aventure?
Alors, de formation, il est mécanicien, mais en fait, depuis toujours, il est chauffeur routier. Il n'a jamais exercé la mécanique, à part pour sa passion. Et il est chauffeur routier depuis 18 ans, quoi.
D'accord. Et pourquoi avoir choisi le mode de 4x4 pour voyager et pas camping-car ou fourgon? Enfin, comme on peut voir, qu'est-ce qui vous a le plus motivé à partir sur les routes en 4x4?
Ce qui nous a le plus motivé, c'est que bon, déjà, mon mari est passionné de sport automobile. Quand on s'est rencontrés, on était tous les deux un petit peu là-dedans. Donc, on avait décidé de se mettre au 4x4. Pourquoi? Parce qu'on avait Ophélie qui est née. Et on avait une GTI, un GT Turbo à l'époque, mais la poussette ne rentrait pas dedans. Donc, on avait acheté un 4x4. Et ce qui nous a donné l'idée d'utiliser ses capacités au maximum. Donc, on a commencé à prendre des sentiers battus. Et de là, donc, on a rencontré les roadbooks Vibraction. Et donc, c'est très bien. On n'a plus qu'à suivre un livre, page par page. On remet à zéro à toutes les intersections. C'est un peu comme une chasse au trésor. Et on passe que par des pistes, des chemins caillouteux, de la boue. Et surtout, on est tout seul, ce qu'on ne pourrait pas en camping-car. Avoir accès à des endroits où il n'y a que nous.
Effectivement. Et en fait, vous avez parlé de 4x4. Vous avez quoi comme 4x4 là, pour ce grand voyage?
Alors, on a voyagé pendant 13 ans avec, avec deux Range Rover. Donc, on était très Land Rover. Mais pour le grand voyage, on est actuellement avec un HDJ 80, un Toyota Land Cruiser.
Et au niveau de la consommation de l'essence, ça représente beaucoup?
Alors, jusqu'à présent, quand on voyageait pour les vacances, ça consommait énormément vu qu'on avait un V8. Là, ça va, c'est un diesel, donc ça nous change la vie. Combien on fait de litres 100? On ferait 13 litres au 100 de consommation avec la remorque et on pèse 4 tonnes.
Ah oui, donc c'est très très bien, c'est une super bonne performance. C'est sûr que comparé à un V8 qui va avaler de l'essence à une vitesse folle, c'est sûr que ça doit vous changer complètement la vie. Vous êtes 5 dans le véhicule avec la remorque. Est-ce que du coup, ça a été compliqué de trouver chacun son espace, entre guillemets, chacun son intimité dans le véhicule?
Mais franchement, bon, après, les enfants n'ont connu que ce mode de voyage. Donc, chacun a son espace derrière, avec son sac, avec ses affaires personnelles à l'intérieur. Ils s'entendent bien, donc c'est notre chance. Ils adorent ce mode de voyage, ils adorent la découverte, ils adorent rouler aussi, parce que bon, si les enfants n'aimaient pas rouler, ce serait carrément impossible, parce qu'on roule beaucoup. Hein. Ben, tout le monde y trouve son compte. On a de la chance, on est 5 baroudeurs à l'état pur, on va dire. Mais pour l'espace, après, la plupart du temps, le soir, on est arrêté dans des grands espaces naturels, dans la nature, ce qui fait qu'on a largement la place, quoi.
Et donc, vous avez deux tentes de toit. Vous avez une tente de toit sur le véhicule et une tente de toit sur la remorque. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme équipement pour la vie de tous les jours?
Alors, on a donc déjà, il faut savoir que les deux tentes de toit, c'est comme un lit à la maison. Les matelas sont très, très confortables. C'est waterproof. On a dormi sous quand il y a eu beaucoup de vent, pas de problème non plus. Ensuite, on a un frigo. On a du gaz pour pouvoir faire un feu et faire griller. On a aussi un barbecue quand on peut faire des feux à même la terre. Qu'est-ce qu'on a après? Ben après, on a tout un nécessaire de toilette, une table, des chaises, tout un nécessaire de camping, on va dire.
Et vous avez du coup une douche pour vous laver vous,
enfin, ah oui,
en général, il y a des douchettes, il y a un système.
On a 5 litres d'eau pour se doucher avec une poire pour se doucher, que l'on remplit au fur et à mesure.
Et vous êtes déjà allé dans des pays où il faisait assez froid? Enfin, j'essaye de mettre un peu à votre place, parce que c'est vrai que quand on va dans des pays où il fait un peu froid, c'est vrai que le moment de la douche, il est assez particulier. Donc, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé?
Oui, ça nous est déjà arrivé. Dans le nord de l'Iran, il faisait très froid. En Géorgie, n'en parlons pas. Donc, dans ces cas-là, ce n'est pas la douche tous les jours, ça c'est sûr. La plupart, quand on peut, quand il y en a, quand on trouve un camping avec l'eau chaude, on se fait ce luxe uniquement pour la douche chaude. Parce que quand il neige, ce n'est pas possible de se laver à l'eau froide en extérieur. Ça, on est bien d'accord là-dessus.
Et du coup, au niveau des problématiques que vous pouvez avoir tous les jours, je ne sais pas, au niveau de l'eau, enfin de votre organisation, c'est quoi les petites problématiques récurrentes de votre organisation quotidienne?
C'est une habitude qu'on a. Hein. Au fur et à mesure que l'eau redescend, on trouve de l'eau pratiquement partout, hein, ou dans les stations-service, ou dans les petits villages. Hein. Même en Inde, il y a des puits un peu partout. Et les gens donnent de l'eau facilement aussi. De l'eau, on n'a jamais eu de soucis pour trouver. De la nourriture, c'est pareil. Hein. On se fournit comme les habitants, hein, dans les petites marchands locales à droite et à gauche. Donc ça, ce n'est pas un souci. On va dire que c'est plus un souci quand il fait froid pour se doucher plutôt que pour trouver de l'eau.
Et au niveau de votre nourriture, vous m'avez dit que vous avez un frigo. Vous pouvez être en autonomie pendant combien de jours en nourriture et en eau ?
On peut largement passer maximum une semaine. Maximum une semaine parce qu'on est quand même 5, on est des bons mangeurs. Après, on a toujours des pâtes et du riz à profusion, du déshydraté pour dépanner. Par exemple, quand on traverse un désert pendant 3-4 jours, on sait très bien qu'il ne va pas y avoir de marchands. Du coup, on fait des réserves pour être. Et puis, on prévoit aussi que si on tombe en panne, si on s'embourbe, donc il faut toujours des provisions. Donc, on peut tenir une semaine maximum.
Très bien. Et au niveau de l'énergie, est-ce que vous avez un panneau solaire, quelque chose pour alimenter les batteries de vos appareils ?
Oui, jusqu'à présent, on ne s'en servait pas parce que notre Toyota a deux batteries. Une batterie pour démarrer et une batterie additionnelle pour tous les équipements, pour la douche solaire, pour la douche ou pour le frigo. Et bien là, par contre, qu'on est en statique depuis plus de 45 jours, on est bien content d'avoir un panneau solaire qui nous permet de recharger les téléphones, de charger le frigo et tout ce qu'on a besoin.
Et bien c'est super, vous êtes bien équipé. Maintenant, j'aimerais savoir quelque chose. Vous avez quand même 3 enfants avec vous. Comment ça se passe au niveau des études ? Est-ce qu'ils suivent par Internet, le CNED ? Comment ça se passe ?
Alors, j'ai ma grande fille qui a passé le bac avant de partir, donc on va dire qu'elle a une année sabbatique. J'ai Lola de 13 ans qui on a payé le CNED, donc tous les mois elle fait ses devoirs, elle les envoie et elle a une note avec un bulletin scolaire comme en France, donc elle ne perd pas son année. Quant au petit dernier de 9 ans, sa maîtresse m'a gentiment passé le livre qu'elle est en train de faire aux camarades de mon fils. Et c'est moi qui m'en occupe avec ma grande fille Ophélie. On lui fait faire ses maths et son français.
Ah ben c'est bien organisé. Du coup, vous arrivez quand même à trouver des moments. Parce que c'est vrai que quand on est en voyage, on est souvent happé par les excursions, la découverte du pays, des locaux, etc. Vous arrivez quand même à vous organiser du temps pour que chacun puisse faire ses études ?
Oui. Alors après, j'ai de la chance. Ma grande fille Lola a vraiment des facilités. Donc elle peut tout à fait étudier, faire ses devoirs et même recopier ses interrogations en roulant dans la voiture. Elle est incroyable. Par contre, pour le petit dernier, on prend le temps le matin après le petit déjeuner, tant que le cerveau est frais, et on prend la route après.
Et oui, donc c'est bien rodé. Pour ce voyage et pour les précédents, comment vous préparez vos itinéraires à chaque fois ? Est-ce que vous le faites vachement en amont, des mois, des semaines bien avant de partir, ou alors vous faites un peu en avant et un petit peu au petit bonheur la chance ?
Alors, jusqu'à présent, j'avais de la chance de ce côté-là, puisque comme on faisait avec les roadbooks de nos amis Vibraction, je n'avais absolument rien à préparer. J'avais plus qu'à suivre gentiment leur livre que j'ai acheté juste avant de partir. Il y a tout à l'intérieur. Il y avait les aires pour dormir, les campings, les restaurants si on avait envie. Et elle nous faisait toujours passer par des endroits magnifiques. Donc même le tourisme, bon, on pouvait regarder nous aussi de notre côté, mais en général, elle nous faisait toujours passer par des endroits superbes parce que c'est vraiment ce qu'on aime. C'est les endroits où finalement, il n'y a pas trop de touristes. Par contre, pour ce grand voyage, on n'a pas de roadbook, puisque là, ça n'existe pas, des roadbooks tour du monde, on va dire. Et j'ai ma grande fille qui adore le tourisme, donc elle cherche dans les pays des choses à voir. Et on crée notre itinéraire en fonction des endroits qu'elle veut voir. Et mon mari, comme il a une cartographie avec des pistes, avec de l'off-road, il essaye, quand c'est possible, de passer par des pistes ou des chemins pour aller d'un endroit A à un endroit B, surtout pour manger à midi ou pour dormir le soir.
Donc, joindre l'utile à l'agréable, comme ça, vous restez tout le temps off-road, enfin le plus possible, et vous pouvez en même temps profiter des endroits que vous voulez voir. Et du coup, cette cartographie que votre mari, il a du coup dans un roadbook ou il utilise une application spéciale ?
En fait, il a une cartographie qui s'appelle Aussie Explorer, et donc il y a tout à l'intérieur. C'est un logiciel où il y a des routes et les pistes et les chemins. Il y a tout à l'intérieur.
D'accord, très bien. En tout cas, c'est bon à savoir. Alors ça, c'est une question peut-être je ne sais pas si on vous l'a déjà posée, mais vu que vous êtes tout le temps hors piste, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes, sans faire exprès, tombé sur des terrains privés ? Et comment ça s'est passé ?
Alors, ça peut nous arriver. Bon, par les roadbooks Vibraction, non, parce qu'elle évite de faire passer par des endroits privés parce que c'est interdit. Là, ça nous arrive, mais en général, c'est des sourires des villageois ou carrément de l'étonnement, de la curiosité. On leur fait un coucou. De temps en temps, ils peuvent nous inviter à boire un café ou à discuter 5 minutes. Hein, et on fait demi-tour et on continue notre route. On n'a jamais eu de mauvaise surprise par rapport à ça.
Bon, c'est bon à savoir. Parce que c'est vrai qu'en Europe, surtout en Europe, il y a beaucoup d'endroits privés. Donc, ce n'est pas forcément simple. Enfin, moi, je parle surtout pour la France où c'est très compliqué le off-road. Donc, c'est pour ça.
C'est ce que j'allais vous dire. On n'est jamais parti en vacances en 4x4 en France. En France, tout est interdit au 4x4 c'est forcément à quelqu'un. Et les gens se s'approprient beaucoup des chemins. En France, on ne peut pas. On n'est jamais parti en 4x4 en France. C'est pas possible. On a de la chance d'habiter à côté de l'Espagne. Parce qu'en Espagne, tout est autorisé, par contre.
Ah voilà, c'est bon à savoir, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, ah c'est super, moi je veux plus un camping-car, je veux un 4x4 et je vais pouvoir circuler en France. Ben là, vous le dites très bien, en France, c'est carrément impossible.
Non, en France, c'est pour faire de l'off-road en 4x4, hein, faut oublier. C'est trop compliqué.
Alors moi, je sais par contre que en Corse, c'est un peu plus facile de le faire, c'est un peu plus ouvert, mais c'est vrai que pour le reste du pays, c'est compliqué.
Il faut le faire. Nous, on l'a fait, mais hors saison. On l'a fait en octobre et ça s'est très, très bien passé. On a pu faire un roadbook en entier. On a fait tout le tour de la Corse et on n'a jamais eu aucun problème ni aucune altercation. Mais je pense qu'effectivement, en pleine saison, déjà qu'ils sont submergés de monde, ça doit être différent.
J'imagine. Et au niveau du budget, est-ce que vous avez un budget que vous avez économisé avant de partir ou est-ce que vous avez toujours une récurrence de revenus pendant votre voyage ?
Alors, on a bien entendu économisé pour ce grand voyage, notamment pour les visas, pour les bateaux, parce que bon, on a pris le bateau de l'Iran jusqu'à Dubaï pour aller visiter l'Oman, que je rêvais d'aller voir l'Oman. Donc pour l'aller et le retour, il a fallu payer un ferry qui était quand même assez onéreux, je le savais. Donc on avait économisé pour ça et aussi pour les imprévus, pour les pannes, les choses comme ça. Après, nous vivons pour 1 000 euros par mois. Il faut savoir qu'hors de la France, on peut vivre pour presque rien. C'est différent. Dès qu'on est sorti de l'Europe, avec 1 000 euros, on en a assez. Et vu qu'on loue notre maison 1 000 euros, ben, voilà, on a notre entrée d'argent mois par mois.
Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher, en fait, dans ces 1 000 euros mensuels ?
Alors, forcément, ça dépend des pays, parce que, par exemple, en Iran, ça nous coûtait 4 euros de mettre le plein de gasoil.
Mon Dieu.
Et souvent, on nous l'offre. Quand nous on était des touristes français, on nous mettait 130 litres de gasoil gratuitement.
Ah non, mais c'est incroyable, ça.
Ah, oui, oui, c'est incroyable. Oui, oui, c'est vraiment... On a vécu des choses incroyables. En Iran, l'eau est plus chère que le gasoil.
Ah non, mais ça, c'est la première fois que j'entends ça. C'est quand même incroyable d'entendre ça. Comme quoi... Tout est possible. Là, je la connaissais pas. Pourtant, on m'avait parlé de l'Iran, mais je savais pas tout que l'eau était plus chère. Je le sais par contre par rapport au Mexique que l'eau est plus chère que les sodas, mais pas de l'essence. Enfin, pas du gasoil et de l'essence. Quoi. c'est impressionnant.
Incroyable, incroyable. Il y a sur 2 mois en Iran, on nous a bien payé 5-6 pleins où ils ont pas voulu d'argent. Ça a été impossible de payer.
C'est incroyable, mais là, il ne faut pas prendre l'habitude parce que vous allez être déçu quand vous allez rentrer en France. Hein.
C'est ça, on sait, oui. Mais même en Espagne, jusqu'à présent, partir en Espagne, le plus gros du budget, ça partait dans le gaz. Voilà.
Et j'aimerais que vous me parliez un peu de votre association parce que vous en avez parlé brièvement au début du podcast. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?
Alors, en fait, on a ouvert cette association parce que je voulais à tout prix, vu que je travaille dans le médical, en France, il y a beaucoup de choses qui se jettent. Parce que moi qui suis en plein dedans, il y a des choses qui ne sont même pas... Il y a un produit qui n'existe plus ou qui change de couleur, on le jette. Ou alors un produit... mon client se trompe et commande une certaine taille, il en reçoit une autre, on ne peut plus le rentrer en stock. Ça paraît fou, mais c'est comme ça que ça se passe en France. Et donc, il y a un gaspillage phénoménal. Et quand on sait que dans des pays, ils n'ont absolument rien pour se soigner, ils n'ont pas de pansement stérile suite à des opérations, c'est incroyable. Donc, j'ai décidé de récupérer tous ces produits. J'ai dit à tous mes collègues, je vais faire un voyage sur une année, je vais aller dans des pays pauvres. Dès qu'un client se trompe, ne jetez pas le produit, et je les récupère. Et au fur et à mesure, en un an, j'ai récupéré... 600 kilos de matériel qu'on a mis dans la remorque. Et au fur et à mesure, on les distribue dans les pays. Notamment, on a donné dans un... on était sous zone filmé par zone interdite. On a pu donner dans un hôpital en Arménie qui datait de l'époque soviétique. Il y avait de l'eau qui rentrait dedans. Il pleuvait à l'intérieur. Les bâtiments étaient complètement humides et pourris. Et je leur ai donné des pansements stériles et de la compression médicale, mais et ça fait tellement plaisir.
J'imagine. Et comment vos enfants ils réagissent? Parce que j'ai pu voir au travers des photos que vous aviez votre plus jeune qui aussi donnait à d'autres enfants. Comment ils vivent cette aventure? Parce qu'au-delà du voyage qui bien sûr les transforme, les change, etc., il y a aussi cet aspect humanitaire. Comment ils le vivent?
Eh bien, au début, ils n'en revenaient pas parce que rien que le fait de donner un stylo, parce que vu que j'ai beaucoup de matériel publicitaire, on donne à des écoles ou à des enfants juste des stylos publicitaires ou des petits carnets que j'ai récupérés ou des petits sacs, mais ils étaient heureux alors qu'en France, un stylo, ça ne représente plus rien, un petit carnet non plus et un sac publicitaire encore moins. Il faut un sac de marque, donc ça leur apprend vraiment des choses importantes, des fondamentaux et que c'est pas partout comme ça, quoi. Qu'en France, c'est vraiment différent de ce qu'il est en train de vivre, notamment aujourd'hui. Les enfants n'ont pas de jouets, ils jouent avec un bout de bâton, ils jouent avec des mangues qui tombent par terre. Ça, alors que, en plus, mon fils, bon, il a qu'un ballon pour le voyage. Là, il joue avec le ballon et le chien. Et du coup, les enfants qu'ils rencontrent, et je trouve ça super, quoi. Même les grandes, elles sont pas sur les réseaux en permanence, à discuter ou à... Donc je trouve ça, c'est vraiment très enrichissant pour les trois enfants. Et ce côté humanitaire encore plus quand on voit les regards des enfants ou des gens quand on donne quelque chose.
Est-ce que vous avez eu, ou vos enfants ont eu, certains a priori avant d'entrer dans un pays? C'est vrai qu'on a souvent des stéréotypes, on se fait une idée d'un pays ou d'une population. Est-ce que vous en aviez avant de partir?
Oui, par exemple, franchement, ça c'est en Iran. Bon, c'est un pays qui est majoritairement musulman et encore plus le Pakistan. De toute façon, il y en a plein. Il y a l'Iran, où c'est que je pensais qu'on ne pouvait pas dire qu'on était chrétien, sauf qu'ils ne faisaient que nous le demander. Et on a commencé à dire qu'on était chrétien et ça s'est toujours très, très bien passé. Les gens sont très tolérants. Ce n'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils n'acceptent pas qu'on ne le soit pas, qu'on soit différent d'eux, que nos filles ne soient pas voilées et qu'on ait une croix autour du cou. Et ça a été une très belle surprise. Et encore plus au Pakistan. Alors au Pakistan, on a été escorté pendant 3 jours parce qu'il y a un endroit qui est proche de l'Afghanistan et on est escorté par l'armée. Mais là, c'est pareil, les gens sont adorables, on n'a jamais senti d'insécurité. Et là, encore une fois, même s'ils sont très musulmans et très pratiquants, il n'y a eu aucun problème. Et on a dit qu'on était chrétiens, la croix autour du cou, toujours en évidence, la croix au 4x4, il n'y a aucun problème. En Inde, pareil, on nous avait beaucoup dit qu'en Inde, ce n'était pas évident, avec des filles blondes, les cheveux longs. On avait mis en garde mon mari qu'il fallait qu'il soit vigilant en ayant... trois femmes, on va dire, mais les gens n'ont pas jamais eu des regards malsains on ne s'est jamais senti en insécurité. Et on le voit encore ici dans notre petit village où on est confiné, on n'a jamais eu un mauvais regard ou des problèmes. Franchement, comme quoi, il ne faut pas avoir d'a priori, je pense. Il y a des expériences de chacun sont différentes. On peut avoir de bonnes surprises comme des mauvaises, mais il ne faut pas avoir d'a priori. Je pense qu'il faut, voilà, il faut se les faire soi-même.
C'est vrai qu'on a un a priori où on se dit, oula, ils sont très conservateurs, il y a aussi des risques peut-être d'attentats, d'enlèvements, de problèmes, etc. Puis au final, on se rend compte que c'est certainement les gens les plus adorables. Vous m'avez dit, on vous a offert le plein plusieurs fois en Iran. Au Pakistan, ils sont adorables. Moi, ça, je l'ai lu sur votre page Facebook, que vous étiez très, très émerveillé de vos rencontres. Et du coup, comment réagissent les locaux des pays que vous visitez quand ils vous voient arriver avec un 4x4, une remorque et 3 enfants?
Alors les enfants, ça ouvre les portes. Donc déjà, ils sont curieux de voir un 4x4. Par exemple, en Inde, là, il n'y a pas du tout de 4x4. Ils sont en vélo ou en mobylette, de temps en temps en voiture, surtout dans les villages, en ville, il y a des voitures, mais des 4x4, il n'y en a pas. Alors une tente de toit et dormir à l'extérieur, ils ne font pas du tout de camping. Donc ils sont très curieux. Mais alors quand ils voient les enfants, ça ouvre des portes et le chien également, quoi. Enfin, je veux dire, on a une 2 filles, un garçon, un chien, plein de choses qui forcément intéressent les personnes.
Alors, comment ça se passe au niveau des frontières avec les douanes, etc., quand vous êtes en 4x4, surtout avec un chien? Est-ce qu'il y a des demandes de documents particuliers? Enfin, ça se passe comment au niveau des douanes?
Alors, pour le chien, il lui faut un passeport. Il faut qu'il ait tous les vaccins à jour. Il faut qu'il ait la rage. C'est mon vétérinaire qui s'occupait de tout, hein, pour qu'il soit à jour pour un an. Il a même fait 2 injections pour la rage, pour qu'il soit à jour sur 2 ans, qu'on soit tranquille. Et ensuite, il faut une sérologie. Qu'il a fait une prise de sang pardon, à mon chien, et je l'ai toujours dessus. Du moment qu'on a ça, ben, le chien est en règle.
Et au niveau du 4x4, vous n'avez jamais eu de problème? Parce que je sais qu'il y a certaines histoires d'assurance qu'il faut avoir, etc., quand on arrive dans certains pays.
On a gardé notre assurance en France, même si elle ne couvre pas dans ces pays-là. Hein, depuis la Après la Turquie, elle ne nous couvre plus. Depuis la Géorgie et l'Arménie, on n'est pas couvert. Donc à l'entrée des pays, ça dépend lesquels. Où il y a des assurances obligatoires, je me souviens en Oman et aux Émirats arabes, on nous a obligés, même en Géorgie, à prendre une assurance pour le véhicule. Et bien on le fait, on paye entre 15 des fois et 30 euros par mois maximum. Et puis voilà, on est tranquille.
D'accord. Est-ce que vous vous déplacez tous les jours avec votre 4x4 ou est-ce qu'il y a des fois où vous êtes resté posé pendant plusieurs semaines?
Jamais. Alors c'est pour ça que le confinement a été d'autant plus dur pour nous. Parce que même les enfants, quand on trouve des endroits mais vraiment paradisiaques, notamment en Oman, il n'y a que des endroits paradisiaques, mais ils ont tellement envie de découvrir, on va dire, la baie d'après, ou le chemin d'après, ou le désert d'après, que quand ils ont bien profité, bon, ça reste une journée, oui, si on trouve une méga crique, ils adorent se baigner, ou quand il y a des choses à visiter, quand il y a des wadis, quand il y a des... n'importe quoi, on passe le temps de visiter ce qu'on veut faire, mais en général, jamais on passe 2 nuits au même endroit, ça n'arrive pas.
Et comment ça se passe quand il pleut? Comment vous vous occupez?
Alors quand il pleut, ben, de toute façon, on roule quand même. Donc quand il y a du tourisme, c'est moins rigolo quand on a quelque chose à visiter. Mais franchement, jusqu'à présent, on a eu de la chance. En 9 mois de voyage, la pluie ne nous a jamais empêchés de visiter quoi que ce soit. Et pour le soir, on a une grande tente qui se déplie pour pouvoir manger à l'intérieur. Si on l'a sortie dès quand il faisait froid, ça nous est arrivé de dormir sous la neige. Donc on mange là-dessous. On peut mettre une espèce de capsule en alu sur notre camping gaz qui permet de chauffer. Ça chauffe très vite vu que c'est petit. On est donc à l'abri du froid et de la pluie. On a aussi un auvent qui nous protège du soleil et de la pluie si la pluie n'est pas trop forte.
D'accord. Et est-ce que vous avez déjà eu, parce qu'en 9 mois, est-ce que vous avez eu des problèmes mécaniques sur votre véhicule?
Oui, on a eu un problème mécanique en Turquie sur un amortisseur qui nous a lâché, qui n'aurait pas dû parce que... C'est des amortisseurs Fournalès et qui doivent normalement être garantis à vie pratiquement, surtout qu'on venait de les faire refaire. Donc là, ce n'était pas de chance. C'est comme quoi, quand ça doit arriver, ça arrive. Et on a été drôlement embêtés parce que les douanes ne laissaient pas passer l'amortisseur aux douanes à 2 reprises. Donc on a été stoppé 1 semaine pour le coup. Mais heureusement, mon mari est mécano, donc il avait fait une modification. On pouvait quand même rouler. Bon, on ne pouvait pas faire beaucoup de kilomètres, mais on pouvait quand même changer d'endroit pour dormir. C'est ce qu'on faisait. Même si on ne faisait que 20 kilomètres, on roulait pour ne pas dormir toujours au même endroit et de ne pas avoir l'impression d'être totalement arrêté. Sinon, des petites bricoles, mais rien de bien grave, si ce n'est cet amortisseur. Et la remorque aussi. Comme on passe par des sentiers battus, même si c'est une remorque de l'armée, elle est quand même très, très lourde et elle a subi quelques... Qu'est-ce que c'est que tu as refait? Mon mari a refait la suspension entièrement dessus pendant qu'on était en Iran.
Oui, donc malgré tout, en 9 mois, c'est certes quelques petits pépins, mais ça ne reste pas des gros, gros, gros pépins qui vous auraient arrêté pendant des mois et des mois, voire même un gros problème qui pourrait vous stopper complètement.
Non, ben heureusement, il avait tout refait de A à Z. Il avait complètement démonté le 4x4, mon mari. Il avait tout refait, la suspension, le châssis. Il a refait des Lego ou un Playmobil avec le 4x4. Hein. Le moteur, il a tout refait entièrement. Donc bon, après, ça peut arriver quand même, hein, malgré tout, mais bon, un peu moins. Il a été restauré entièrement.
Quelle a été la plus grosse galère que vous ayez eue depuis que vous êtes parti, ou une des plus grosses galères que vous ayez?
La plus grosse galère qu'on ait eue, c'était justement en Inde. On s'est fait le luxe de se payer un méga hôtel dans un endroit paradisiaque, vraiment avec la piscine. Enfin, c'était vraiment, vu qu'on vit quand même à la dure, c'était vraiment le moment de pause. Et j'ai fait une grosse intoxication alimentaire, une grosse fièvre. Je suis tombée dans les pommes, j'ai perdu connaissance et j'étais en train de m'étouffer parce que je m'avalais la langue et devant mes enfants et mon mari. Heureusement, mon mari a gardé son sang-froid, on va dire. Il a mis ses mains dans ma bouche, j'ai failli lui sectionner les doigts, mais ça n'est pas arrivé. Et je me suis réveillée et ça s'est bien passé, mais bon, tout le monde a eu bien peur.
Ah oui, effectivement, oui. Alors, vous faites bien d'en parler. Est-ce que vous avez une assurance spécifique pour le voyage qui vous couvre au niveau médical toute la famille?
Non, franchement, on n'a rien pris, on savait pas quoi prendre. Bon, on a quand même on a plusieurs cartes bleues, donc chaque carte bleue a une assurance. Donc, au pire, on aurait fait avec ça. Après, on a de l'argent de côté au cas où on a un PPM. On n'a pas pris d'assurance supplémentaire.
Comme quoi, plus de peur que de mal. Heureusement, tout s'est bien arrangé pour vous.
Oui.
Comment ça se passe le confinement? Parce que là, on est en train d'enregistrer ce podcast, on est en plein confinement et ça fait plusieurs semaines que ça dure. Comment vous le vivez? Comment ça se passe? Parce que là, vous êtes en Inde. Comment vous vivez cette période?
Alors, au tout début, quand on a su qu'il y avait ce lockdown et qu'on n'allait pas pouvoir rouler pendant un certain temps, on ne savait pas du tout où on allait s'arrêter, donc c'était un peu en panique. Vu qu'on voulait quand même s'écarter des gens, on se cherchait un endroit où il n'y avait personne, notamment dans une forêt ou un endroit un peu désertique. Sauf qu'heureusement qu'on ne l'a pas fait, parce qu'on n'aurait jamais pu, vu que je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait tenir une semaine avec allez, maximum 15 jours en faisant des rations. Mais même pour l'eau et la nourriture, ça aurait été trop compliqué, on avait trop besoin des gens. En police station, on a souvent dormi en police station au Pakistan quand on était sous escorte. Ça nous est arrivé aussi en Inde juste avant le confinement. Et là, franchement, il n'y a rien d'agréable. On est entre quatre murs, les toilettes sont immondes. On vaut mieux être dans la nature que dans ces police stations. Donc, on a eu cette chance de rencontrer un petit jeune de 21 ans dans la forêt qui nous a gentiment proposé de venir dans son village sur la place du temple et qu'ils allaient nous aider à passer cette période difficile.
Enfin, ça se passe bien, vous arrivez quand même à vous occuper un petit peu, vous attendez que ça passe. Enfin, comment vous occupez la journée?
Alors, au début, c'était très, très long, surtout qu'on pensait que ça allait être débloqué vers le 15 avril. Puis finalement, on a appris que c'était encore rallongé jusqu'au 3 mai. Là, on sait pas, là, ça a été à nouveau rallongé jusqu'au 7 mai. Enfin, c'est toujours rallongé. Au début, on trouvait le temps très long. On arrivait à s'occuper, mais on trouvait long parce qu'on n'était pas du tout habitué à être arrêté. Mais là, on est un peu comme chez nous. On a notre quotidien. Donc, on se lève le matin, on déjeune. On va à la douche, on fait notre lessive. J'ai pas besoin de pas parler de ça. On a un bidon hermétique où c'est que l'on met le linge avec de la lessive à l'intérieur. Normalement, pendant qu'on roule, comme c'est en plein soleil et que ça remue dans tous les sens sur de l'eau froide, ça fait office de machine à laver et je n'ai plus qu'à rincer. Là, on le laisse en bidon, dans le bidon aussi, en statique, mais vu qu'il fait très très chaud, ça se lave aussi bien. Et ensuite, mon mari aide les gens du village à bricoler, à réparer des motos, à réparer des vélos. Il balaye la place du temple. Mes filles apprennent des mots hindous pour discuter avec le prêtre parce qu'ils ne parlent pas du tout anglais. Après, elles lisent. Heureusement, elles ont des Kindle pour lire. Mon fils, il joue au ballon. On fait les devoirs aussi. Moi, j'écris un livre depuis de notre départ. Donc là, ça me laisse plus de temps d'écrire tout ce qui se passe. Et puis voilà, quoi. En fait, on est à l'extérieur. Donc ça, on serait enfermé, on serait déjà devenu fou, je pense. Mais là, on est à l'extérieur. On est en plein milieu de champs de blé, sous des manguiers. D'un côté, il y a un lac où les buffalos viennent se baigner tous les jours. Il y a les chèvres qui passent à côté de nous, les moutons. Enfin, voilà. Les singes aussi. Il y a plein de singes qui viennent manger nos bananes. Enfin, franchement, il y a pire. On prend notre mal en patience.
Alors, tant mieux, en plus de ça, moi j'ai remarqué quelque chose qui m'a assez surpris, c'est que vous vous intéressez souvent les télévisions locales. J'ai vu sur votre page Facebook, il y a pas mal de. Il y avait la télé en Inde récemment, puis il y a eu aussi au Pakistan, et puis avant aussi, puis il y a eu aussi sur M6. Bon, bref. Comment vous vivez cette médiatisation-là? Comment ça se passe? Comment ils vous contactent? Etc. Comment ça se passe tout ça?
Ah ben, c'est très bizarre. C'est toujours. La première fois, ça nous arrive en Turquie. On était en train de visiter un volcan et on s'est rencontré en même temps avec une TV coréenne qui faisait un documentaire sur le volcan. Ah, on peut vous filmer en même temps. Donc, ils nous ont posé des questions. Donc, la première fois, ça a été comme ça, le petit bonheur, la chance. Alors, et puis, il y avait vraiment que nous. Il y avait nous et eux, hein, en plein milieu de rien. Au Pakistan, c'est parce qu'on a rencontré une gentille personne qui nous a aidés à obtenir nos visas. Et il connaissait des médias, il nous a demandé si on était d'accord. Donc voilà, on a participé agréablement au reportage. Et alors là, par contre, en Inde, ça devient, bon, ils sont très gentils, mais ça devient, comment dirais-je, ça devient même trop. Tous les jours, il y a de plus en plus de télé, toujours différentes les unes des autres, de plus en plus grandes. Alors, ou la presse, ou la télé, qui veulent à tout prix nous interviewer. Alors, à chaque fois, ils sont gentils, hein, ils nous amènent du pain de mie, des bonbons, de l'anti-moustique, des gâteaux, des soupes, des fruits. Enfin, vraiment, on est plus que gâtés. On a de la nourriture pour plus qu'il n'en faut. Et à chaque fois, ils veulent nous interviewer parce qu'ils trouvent extraordinaire qu'on ne soit pas rentré en France, parce que la plupart des gens sont rentrés chez eux, et qu'en plus, on ne soit pas en police station ou en quarantaine et qu'on veuille à tout prix rester dans ce village. Parce qu'ils nous ont proposé à maintes et maintes reprises, surtout le gouvernement, de nous mettre en police station, mais on ne veut pas parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Et nous, on est bien mieux dans cet espace naturel, avec ces gens au temple, dans ce petit village. Donc je pense que c'est ça qui les intrigue.
Vous êtes en train de devenir des petites stars en Inde. En tout cas, à la télévision, ouais, ça, enfin, le reportage que j'ai vu, là, que vous avez partagé, voilà, ça, on voyait les militaires, les machins. Enfin, voilà, ça fait vraiment une espèce d'attraction. Vous êtes l'attraction, voilà, un petit peu en Inde en ce moment.
Ah oui. Ah oui, non, mais c'est incroyable. J'ai mis une émission, mais il y a dû en avoir. Nous en a envoyé. Une dizaine, quoi. On a une dizaine déjà de passages à la télé et de presse, autant à peu près. Presse 20, même, ma fille me dit.
Ah oui, quand même. Donc, ça fait quand même pas mal.
Tous les jours.
Quels sont les endroits les plus insolites où vous avez dormi? Parce que ça, ça me vient, mais... Parce que vu que vous avez pas mal...
C'est le désert,
c'est à Oman, tout ça?
Ah ouais. Ah oui, en Oman ou même... le désert de l'Iran. Qui s'appelle le désert Kalut. C'est un désert de cailloux, de grosses roches caillouteuses, un peu comme du sable, mais très hautes et très dures. Et là, je crois que c'est le plus insolite et le bivouac le plus magique. Un désert de pierre. On avait vraiment l'impression d'être sur Mars ou je ne sais où et seul au monde. C'était magnifique.
Et ça, je veux bien vous croire. Est-ce que vous avez fait aussi des rencontres insolites du genre, est-ce que vous êtes réveillé un matin avec des animaux ou, je ne sais pas, une rencontre un peu fortuite depuis que vous êtes parti?
Alors, c'est souvent les singes. Quand, en Géorgie, on s'est trouvé entouré, le 4x4 entouré de loups. Mais bon, ils sont peureux, hein, ils ne nous attaquent pas. Hein. Des loups qui hurlaient tout le tour du 4x4, on était au bord d'un lac. Un ours aussi, mais c'était un tout petit ours. On avait vu les pattes le lendemain, on avait vu des yeux, on ne savait pas ce que c'était. On a découvert le lendemain que c'était un petit ours. Après, comme animaux, non. Après, voilà, c'est tout, je pense, rien de plus.
Et depuis ces 9 mois, est-ce qu'il y a un moment que vous avez plus retenu par rapport aux autres, quelque chose qui vous a vraiment plus marqué que tous les autres que vous avez pu vivre avant?
Ah ben, c'est ces gens ici que l'on ne connaît absolument pas dans ce village. C'est notre plus belle histoire. Pendant ce confinement, ce petit jeune de 21 ans qui a parlé à tout son village et qui les a convaincus de nous accueillir parce que bon, on leur faisait peur, on est des étrangers, il y a le corona, on sait très bien que la plupart des étrangers sont mal reçus à cause de ce virus. Et ils nous ont accueillis et ils nous considèrent, mais c'est incroyable, que mon fils est tombé malade, il a eu une forte fièvre, il est monté à 40 de fièvre. On était un peu en panique parce que même le Doliprane n'arrivait pas à lui faire baisser, on lui mettait de l'eau froide sur le visage. Et ils l'ont pris, ils n'ont jamais eu peur à aucun moment, ils ne l'ont pas rejeté, ils l'ont pris, ils lui ont frictionné les pieds avec de l'huile de moutarde, ils l'ont transporté devant le feu du prêtre pour l'aider à faire baisser la fièvre, comme ils font pour leurs enfants à eux. Le prêtre a fait une prière limite exorciste pour lui faire sortir le mal, et c'était carrément incroyable, il y avait plein d'amour, et on était comme si on était de leur famille, alors qu'on ne les connaît pas ces gens, c'est incroyable. Je crois que c'est la chose la plus insolite à ce jour, c'est ça.
Et bah, vous me donnez encore plus envie d'aller visiter l'Inde. quels sont vos projets pour la suite? Parce que vous m'avez dit que c'était à partir du 3 mai que le déconfinement il commençait en Inde. Comment ça se passe pour vous pour la suite?
C'est ça. Alors là, on est à 30 km du Népal. On s'y est présenté le 21 ou 22 mars avant que les lockdowns, mais les frontières étaient déjà fermées. Donc là, on attend de pouvoir passer au Népal, on attend que les frontières réouvrent, surtout qu'au Népal, il n'y a pas du tout de cas de corona, comme dans notre petit district là où on est en Inde. Au départ, on voulait peut-être visiter le sud de l'Inde, mais vu que le corona il s'est pas mal développé, là, on ne veut plus aller dans le sud de l'Inde, on veut vraiment aller au Népal.
D'accord. Et c'est quoi la suite après? Quels sont les pays que vous allez faire jusqu'à votre tour?
Ensuite, après le Népal, on veut traverser la Birmanie, le Myanmar. Et ensuite, Thaïlande, Laos, Cambodge. Et ce qu'on veut, c'est finir en Malaisie pour pouvoir embarquer le véhicule sur un bateau et nous rentrer en avion.
D'accord. Et le bateau mettra combien de temps pour rentrer en Europe?
Aucune idée. Là, on a fait déjà quelques appels d'offres, mais comme on a vu avec le corona, on ne sait pas du tout à quelle date on y sera. Normalement, on devait rentrer pour septembre en France. Là, on sait très bien qu'on ne sera pas rentré. Peu importe la date, on veut prendre le temps de rentrer et surtout de rentrer en sécurité et voilà, sans problème.
D'accord. Et où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux ou pour les personnes que ça intéresse de suivre votre aventure, où est-ce qu'on peut vous suivre?
Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Le nom est le même. Nous, on s'appelle les 5 baroudeurs.
D'accord. De toute façon, dans tous les cas, moi, je mettrai l'adresse en description du podcast. Enfin, les adresses en description du podcast. Il y a quelque chose que j'aimerais savoir, c'est s'il y a des familles qui nous écoutent et qui ont peut-être peur du voyage ou peur de partir à l'aventure et qui voudraient faire comme vous, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller?
Déjà, il faut, si on est une famille, il faut, à mon avis, il faut vraiment qu'on soit tous les 5. Enfin, nous, on est 5, donc il faut que tous les membres de la famille souhaitent faire ce voyage. Parce que bon, il y en a qui partent des fois alors que les enfants ne veulent pas. Après, ça peut se passer bien et qu'ils acceptent le voyage par la suite. Mais je pense que vraiment, pour le vivre pleinement et en cas de coup dur, il faut vraiment se serrer les coudes. Et pour cela, il faut être 5 à vouloir le faire. Ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Ensuite, il faut pas... Enfin, moi, c'était un rêve que j'avais. Aujourd'hui, je le réalise et j'en suis très heureuse. Comme je dis souvent avec ma grande fille, on vit notre meilleure vie. On profite de belles choses tous les jours. Et ce voyage, je suis sûre et certaine, restera inoubliable. Et je pense qu'il faut se lancer. Même mon mari ne voulait pas louer la maison au départ. Il ne voulait pas quitter son travail. Et puis finalement, aujourd'hui, il l'a fait et ça se passe bien. Il faut se lancer, je pense, et s'enlever peut-être des barrières qu'on a.
Très bien, ben je pense que c'est un très beau message. Et il y a une question que je pose toujours à la fin du podcast, c'est au sujet de la liberté. Pour vous, la définition de la liberté, c'est quoi votre définition à vous de la liberté?
Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se lève quand on n'a plus sommeil, on mange quand on a faim, on s'arrête tous les jours dans des endroits différents. On a toujours le temps pour l'autre, différemment dans notre vie quotidienne, ben notamment nous en France, où on a des soucis de notre travail, les enfants avec leurs copains ou avec les études. Enfin, on a toujours des choses plein la tête. Et la liberté aujourd'hui, c'est ça. Ce n'est pas inaccessible parce qu'on n'a pas forcément plus d'argent que d'autres. On a juste loué notre maison pour pouvoir faire ce voyage. Donc, je pense que voilà, la liberté, c'est ça.
Ben, c'est beau. En tout cas, moi, je peux vous dire quelque chose, c'est que je vous remercie déjà d'avoir pris le temps de répondre présente pour ce podcast. Mais au-delà de ça, moi, je possède un 4x4 et vous me donnez encore plus envie d'aller explorer toutes les cartes, de passer par les petits chemins et puis d'aller dans des coins où, voilà, on a des comme vous le dites, des barrières et puis il faut les franchir et puis il faut se rendre compte que ça valait le coup d'y aller et de vivre cette liberté.
Oui, en fait, il y a beaucoup de femmes qui me disent « mais vous n'avez pas peur de dormir en plein milieu de rien, dans la tente, parce qu'on n'est pas fermé, quoi ?» Je dis « à 9 mois de voyage, et ça fait 13 ans qu'on voyage comme ça, on n'a jamais eu aucun problème la nuit. Alors on ne s'arrête jamais en ville ou sur des parkings, donc du coup, les seuls problèmes qu'on peut avoir, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est des animaux qui viennent nous voir, mais ça reste toujours le chien aboie, ils s'en vont et c'est fini, quoi. »
Mais surtout, il y a beaucoup moins de problématiques possibles qu'avec un camping-car, effectivement, puisque
c'est ça.
Avec les camping-cars, en plus de ça, il y en a de plus en plus partout. Puis il y a des lois qui changent, qui évoluent. Du coup, voilà, là au moins dans un 4x4, certes, il y a un peu plus de promiscuité, mais en tout cas, ça offre beaucoup plus de liberté.
Voilà.
Écoutez, Virginie, franchement, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé pour ce podcast. Je suis sûr qu'il va intéresser plein de personnes et que vous allez pouvoir vraiment inspirer, j'espère, le plus de familles, le plus de personnes qui veulent sortir un petit peu des sentiers battus. En tout cas, moi, je continue de suivre votre aventure. Peut-être que d'ici quelques temps, on pourra peut-être se revoir pour un prochain épisode. En tout cas, moi, je me le souhaite.
Ok.
Mais en tout cas,
avec plaisir.
Passez une bonne fin de confinement, profitez bien et puis on continue de suivre votre aventure.
Merci beaucoup, bonne journée.
Et c'est ainsi que se termine ce 9e épisode de Courant Libre. J'espère que le parcours des 5 baroudeurs vous aura inspiré et vous aura peut-être donné envie de voyager comme eux, à l'abri de la foule et du tourisme de masse. J'espère que Virginie aura su vous rassurer si vous comptez voyager en famille. Je tiens à vous remercier chaleureusement d'être de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. Je vous dis à dans un mois dans un prochain épisode. Ciao !